Ok, bonjour à tous. Bon, nous allons aujourd'hui commencer ce quatrième cours qui va s'intéresser à la synthèse de fibres, de membranes, de nanoarchitecture, par la synthèse template qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va la poursuivre, pour ensuite passer aux techniques d'électrodépôt et terminer sur ce qu'est l'électrospinning. Alors la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais montré un peu la synthèse template à partir des colloïdes, et on avait distingué ou différencié différents types de colloïdes. Comme vous pouvez voir ici, on avait vu les templates durs qui nous permettaient, à partir de la silice colloïdale, d'obtenir tous ces matériaux, ces sphères creuses, ces York Shell, et ainsi de suite. Et également, on avait vu l'effet Kirkendall qui nous permettait de comprendre pourquoi on pouvait préparer des tubes comme indiqué ici. Ensuite, on était passé, je dirais, à l'utilisation des templates durs, colloïdes, pour l'auto-assemblage. Et dans ce cas, je vais montrer finalement les opales. Je vais montrer comment à partir de SiO2, en faisant dans ce cas des templates, soit à partir d'inorganiques colloïdales, ou alors dans ce cas à partir de nodules de polystyrène, on pouvait passer directement de cristaux, de colloïdes moléculaires à des colloïdes atomiques dans lesquels vous pouvez voir ici la forme SP3 ou SP2. Et ensuite, on en pouvait faire une chimie de Lego pour nous permettre de reconstruire différentes sortes d'édifices. On avait également vu l'utilisation de template mou, ce que j'appellerais des micelles, où dans ce cas, on avait regardé, rappelez-vous, le diagramme ternaire avec les tensioactifs, l'eau et l'huile, et on avait montré comment on pouvait, à partir de ces espèces, de nouveau, construire d'autres entités atomiques. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on va poursuivre un peu ces sortes de template mou, et on va voir finalement comment on va pouvoir utiliser les matériaux biologiques comme sorte de template. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser finalement aux bactéries, aux virus, et on va voir comment ces bactéries et ces virus, qui notamment contiennent comme pouvoir une capsule protéinique avec un brin ADN, peuvent servir à faire des liaisons ou à déterminer des liaisons. On va essayer de voir quelle est l'interaction entre ces différentes espèces et des composés organiques et jouer sur ces différentes sortes de liaisons. Et je vous donne ici un exemple, qui est par exemple le virus de la mosaïque du tabac, comme on peut le voir ici, où on a le virus sur lequel on a pu, dans ce cas, faire de l'ingénierie génétique virale pour modifier les acides aminés à l'intérieur de cet ADN et créer des groupements fonctionnels sur lesquels on peut fixer le nickel, voire le silicium par la suite. Et grâce à cela, eh bien, on peut faire des électrodes de silicium, dont vous voyez ici la capacité qui est tracée en fonction du nombre de cycles. Mais lorsqu'on regarde ces travaux, je dirais, sur les virus, on ne peut s'empêcher de rappeler les travaux qui ont eu lieu à MIT, qui est d'Angela Belcher, qui est une des premières, une des pionnières dans ce domaine, qui, de cela, 5 ou 6 ans, a montré effectivement qu'on pouvait utiliser ces virus comme template pour faire des matériaux d'électrodes. Et ces chercheurs, finalement, ont tout simplement doté ces virus, c'est-à-dire ces couches protéiniques, de liaisons capables d'absorber des éléments métalliques ou des fonctions capable de nucléer des groupes phosphates ou des groupes ou des oxydes de cobalt. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, grâce à ces virus, créer des batteries, comme on peut voir ici, dans lesquelles vous avez une électrode positive et une électrode négative, avec les tenues en cyclage. Tout ça, si vous voulez, ça vous montre bien sûr les travaux que l'on peut faire. On est bien loin des quantités d'énergie que l'on veut pour des applications de nos jours, mais enfin, ça vous montre, je dirais, l'élégance que l'on peut faire au niveau scientifique, pour créer, à partir, je dis, des espèces biologiques, des accumulateurs au lithium, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, si les virus peuvent fonctionner, on peut également passer à des éléments qui sont plus importants, des espèces biologiques plus importantes, que sont les bactéries. Et là, les bactéries, je dirais, sont relativement plus faciles à cultiver, et comme vous pouvez voir ici, elles se présentent sous différentes sortes de formes. Vous avez des formes chaînes, vous avez des formes sphériques, vous avez des genres de gélules, de capsules, et ainsi de suite. Eh bien, on va montrer qu'on va pouvoir utiliser toutes ces formes pour, une fois de plus, aller nucléer des espèces à la surface de ces bactéries. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples pour illustrer cela. Le premier, eh bien, concerne des bactéries oxydantes, qui sont les bactéries de type acido-borax, qui n'est rien d'autre qu'une bactérie qui, dans ce cas, a une double couche lipidique avec à l'intérieur le périplasme, qui est aux alentours de 40 nanomètres. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un milieu de biominéralisation dans lequel on va avoir du dichlorure de fer, nitrate, et ainsi de suite, pour, dans ce cas, la bactérie va jouer son rôle d'oxydant. Elle va oxyder le fer plus 2 en fer plus 3. Et on va pouvoir, dans ce cas, créer la phase gamma FeOH, qui est l'oxyde d'oxyde de fer. Et notez bien que dans ce cas, mais toute cette biominéralisation, et c'est ça l'aspect intéressant, va avoir lieu dans ce périplasme. Ensuite, bien on fait un traitement, je dirais, flash à haute température pour brûler ou pyrolyser toute la partie organique, et on va terminer avec ces belles coques qui, finalement, ne sont rien d'autre qu'un chapelet de cristaux d'hématite Fe2O3. Ça veut dire qu'en ce cas, on est capable de structurer notre électrode avec ici le courant électrique qui pourra passer et à l'intérieur, l'électrolyte. Et bien, grâce à ça, on peut avoir des composés qui sont texturés, comme vous pouvez voir ici, qui ont des performances en puissance qui sont relativement beaucoup plus importantes que les matériaux classiques non texturés. Ce que vous regardez ici, c'est la variation d'énergie en fonction de la vitesse de charge. Ça veut, grosso modo, ça veut dire que vous pouvez recharger votre accumulateur en étant relativement court, ce qui est, je dirais, intéressant pour des applications de puissance. Un autre exemple dans le même domaine eh bien, consiste là de changer de type de bactérie, où maintenant on va prendre une bactérie du type Bacillus pasteuri, avec, comme vous pouvez voir dans ce cas, c'est une bactérie aérobie, avec dans ce cas, vous n'avez qu'une seule membrane, les phospholipidiques comme indiqué ici. Dans ce cas, eh bien, on va tout simplement créer un milieu de biominéralisation pour, une fois de plus, utiliser cette coque comme template. Et grâce à cela, eh bien, on peut, après des chauffages à 300 degrés, pyrolyser la partie organique et vous obtenez directement la bactérie, ou la forme de la bactérie, comme on peut voir, le bactériomorphe, avec tout autour eh bien, la formation de ce phosphate. Et là aussi, on est dans des conditions, je dirais, idéales pour avoir des comportements électrochimiques, puisqu'on a accès, une fois de plus, aux électrons et aux ions de l'électrolyte, et on a, dans ce cas, des capacités en fonction des vitesses de décharge relativement intéressantes. Et enfin, poursuivant ces genres de travaux, eh bien, certains scientifiques ont utilisé également l'ADN comme template. Vous avez ici un exemple dans lequel une séquence d'ADN a été finalement utilisée à deux rôles. Tout d'abord, comme agent dispersant de fibres de carbone. Vous voyez qu'en ce cas, l'ADN s'entoure autour des fibres de carbone. Et également, agent de nucléation. Et le cas particulier ici, c'est que dans le cas de l'ADN, eh bien, on a tous ces groupes en phosphate qui vont être utiles pour préparer les composés de type FePO4. Et grâce à cela, eh bien, on peut effectivement, avec les différents traitements indiqués ici, mettre ce milieu ADN plus ces nanotubes de carbone dans ce mélange de FeCl3 pour y apporter les ions trivalents et pour créer finalement ce phosphate de fer, ensuite que l'on pourra déshydrater et obtenir, si vous voulez, ce genre de schéma schématique que je mets ici. L'avantage de faire tout ça, eh bien, une fois de plus, ça vous permet d'apporter les électrons beaucoup plus rapidement à votre matériau d'électrode. Voilà le cas directement du composé FePO4. Vous voyez ici, je trace directement le potentiel en fonction de la capacité. Vous avez finalement très peu de capacité. Et au fur et à mesure que je vais augmenter la connexion électrique tout d'abord avec le carbone, eh bien, je vais augmenter cette capacité. Et lorsque je mets directement avec l'ADN, ou dans ce cas, j'ai une percolation électronique avec l'apport ionique et je peux obtenir de très bonnes capacités. Donc voilà, si vous voulez, où vont les recherches dans ce domaine. Alors, plus exactement, où va-t-on? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on essaie d'utiliser ces concepts de virus qu'on a pu voir ici pour faire, sur un circuit, des rubans d'aluminium ou de cuivre pour faire finalement des circuits 3D dans lesquels l'électrode positive et l'électrode négative pourra s'interpénétrer. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut commencer ou ce qu'on regarde à faire pour faire ces batteries 3D. On essaie également de diversifier cette approche, je dirais, de biominéralisation. Tout d'abord, en essayant de trouver des bactéries qui vont mieux résister au changement ionique du milieu, c'est-à-dire qu'en ce cas, si on veut préparer des composés à base de lithium ou à base de sodium, eh bien, il nous faudra des milieux, je dirais, ioniques, d'où on va essayer de voir des bactéries qu'on trouve dans les milieux salins pour nucléer directement ces réactions. Et également, jusqu'à maintenant, vous savez que les bactéries, eh bien, ça vit à des températures où c'est mort au-dessus de température de 100 degrés, eh bien, il y a certaines bactéries qu'on va pouvoir utiliser pour aller faire ces réactions à 150 degrés, où là, c'est très intéressant, car ça ouvre tout un nouveau domaine de synthèse. Et c'est dans ce cas, on va utiliser les bactéries hyperthermophiles. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais raconter sur l'utilisation de ces templates biologiques. Ensuite, eh bien, je voudrais passer à une autre sorte de template où on va maintenant avoir ce que j'appellerais des templates non colloïdes qu'on va former par différentes méthodes électrochimiques et autres. Alors, on avait juste vu un aperçu de ce genre de template la dernière fois lorsque j'avais mentionné ces templates inorganiques. Ou dans ce cas, eh bien, on va prendre des structures inorganiques, notamment les zéolithes, que l'on appelle entre jargon les KIT6 ou SBA15. Ce sont des matériaux qui ont ces différentes sortes de tunnels sur lesquels on va faire des réactions chimiques à l'intérieur des tunnels et ensuite on va les dissoudre la silice pour avoir finalement une structure répliquée. Ce qui fait qu'ici, je peux, vous voyez, préparer du Cr2O3 dans la même structure à l'échelle nanométrique que ma zéolithe de départ. On peut également avoir des templates polymériques. C'est ce que j'avais montré aussi si on prend des opales. Je peux directement déposer du nickel et ensuite je fais une attaque acide pour ressortir ce nickel et j'ai une opale inverse. Et enfin, il y a le cas où on va utiliser les membranes comme template et c'est un peu ce cas que je vais développer aujourd'hui et vous montrer pourquoi. Dans ce cas, ces membranes, elles peuvent être inorganiques, ça sera directement l'alumine, ou alors organiques, ça sera des polycarbonates. Alors comment ou qu'allons-nous faire avec ces membranes ? Eh bien, je prends directement cette membrane, ce modèle, ce gabarit, et je vais tout d'abord, dans ce cas, injecter différents matériaux. Par exemple, dans ce cas, j'injecte du bismuth, et ensuite, je fais directement un mélange, et je peux retirer, par une attaque acide, avoir des nanofibres de bismuth. Je peux injecter, par exemple, du tellurium sous pression, et, de nouveau, par attaque chimique, obtenir des nanofibres de tellurium. Je peux également déposer du carbone, bien sûr par des méthodes à l'état gazeux, et dans ce cas, de nouveau, je peux faire une attaque acide pour obtenir ces nanotubes de carbone. Vous voyez que là, il y a plusieurs méthodes qui vont vous permettre d'obtenir soit des nanofibres, soit des nanotubes. Et aujourd'hui, eh bien, la recherche, je dirais, il y a une course effrénée vers la synthèse de ces nanotubes et ces nanofibres. Et la question, c'est via des matériaux pour l'énergie, et pourquoi ces recherches intenses dans ce domaine ? Eh bien, je vais essayer de vous justifier ça seulement dans le domaine du stockage d'énergie ainsi que de l'électrolyse de l'eau. Dans le domaine du stockage d'énergie, eh bien, il est important, pour des raisons cinétiques, d'avoir, si vous voulez, ces structures nano-architecturées. Tout cela peut se comprendre ici. Vous avez ici une électrode accumulateur, et pour que l'électrochimie fonctionne, il vous faut la dualité ion-électron. C'est-à-dire qu'en tout point de votre électrode, il faut théoriquement que les ions et les électrons soient là pour pouvoir réagir et faire votre composé d'intercalation. Donc, par conséquent, vous voyez que si je prends ces structures nanofibres, comme indiqué ici, eh bien dans ce cas, je vais avoir les ions, mon électrolyte, qui vont pouvoir s'intégrer, et j'ai ici directement mes collecteurs de courant. D'où c'est une situation idéale, la raison pour laquelle on veut développer ces nanofibres. La même chose se trouve dans le cas directement de l'électrolyse de l'eau, la photoélectrolyse. Dans le cas de la photoélectrolyse, je dirais, dans ce cas, on va bénéficier de la jonction semi-conducteur liquide pour séparer l'eau. Comment cela fonctionne ? Vous avez ici un diagramme de bande dans lequel, lorsque un photon va arriver, vous allez, dans ce cas, générer la paire électron-trou avec, comme indiqué ici, 4 trous et 4 électrons pour avoir cette réaction. Eh bien, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que ces trous vont oxyder la molécule d'eau pour libérer, comme vous allez voir ici, de l'oxygène, ainsi que des protons qui vont être tout simplement réduits par les électrons, comme indiqué ici. D'où, pour que ce schéma fonctionne, il faut 4 photons. D'où il faut des composés qui puissent absorber la lumière. Et si on regarde directement, je dirais, le fondamental de ces procédés, eh bien, on peut les voir ici. Ah, ce n'est pas fini, vous voyez. On peut les voir ici, et on va voir que, dans ce cas, eh bien, l'absorption de la lumière doit être maximale, c'est-à-dire qu'on doit limiter la réflexion, et bien sûr, une fois de plus, le transport des charges va être important. Eh bien, si on regarde localement ce qu'il y a dans la structure, eh bien, je vais prendre deux cas. Le cas du haut dans lequel vous avez une couche mince, vous voyez qu'en ce cas, mon rayonnement incident va être fortement réfléchi, d'où très faible absorption. Et regardez également, le parcours pour les électrons, pour passer directement de la surface au collecteur de courant, va être relativement long. Maintenant, si je prends directement une structure monodimensionnelle, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, je vais tout simplement être non réflectif pour directement le rayonnement, c'est-à-dire que je vais absorber complètement. Et vous voyez qu'en ce cas, les électrons vont pouvoir directement avoir ou se connecter au substrat et avoir un parcours parfaitement libre pour circuler sans résistance. D'où par conséquent, tout cela, eh bien, pour l'optimiser, il va falloir construire, je dirais, des structures filamentaires ou même ce que j'appellerais, vous verrez par la suite, des structures en forme d'arbre pour pouvoir collecter au maximum ce rayonnement. Alors comment va-t-on faire cela ? Bien, on va faire cela avec différentes méthodes, et parmi ces différentes méthodes sont celles que je vais vous parler aujourd'hui. Il va y avoir tout d'abord la méthode d'électrodépôt, qui est dans ce cas anodisation, électrophorèse, voire attaque électrochimique, donc c'est ce qu'on va regarder. Ensuite, on terminera ce cours aujourd'hui par la technique de l'électrospinning, que je traduirai en français comme l'extrusion électroassistée. Alors bien sûr, la technique de l'électrodépôt, eh bien, ce n'est pas une technique nouvelle. Du moins, l'électrodépôt signifie finalement qu'on a une solution et avec un courant, on va pouvoir aller déposer différents types de métaux, et ainsi de suite. D'où, automatiquement, si on regarde dans l'histoire, ça ne peut remonter qu'à l'époque d'Alexandre Volta, qui a découvert la batterie. Mais par contre, si on regarde finalement nos anciens, eh bien, on s'aperçoit qu'ils avaient une technique qui était capable finalement de déposer des métaux. Et ici, vous avez des masques en bois, des sculptures en bois qui sont recouvertes de cuivre. Et ça, c'est 200 ans avant Jésus-Christ, et ça a été trouvé directement au Pérou. Ce qui faisait en ce cas, c'est que finalement, il y avait cette structure en bois qui recouvrait, je dirais, de poudre d'or sur lequel ils allaient déposer du cuivre. Et tout cela en mettant simplement une électrode de zinc et en connectant cette électrode de zinc à directement l'or. Ce qu'ils faisaient par cela, eh bien, interne, ils passaient un courant, ils faisaient tout simplement un changement, un échange de cations. Alors bien sûr, au jour d'aujourd'hui, tous ces procédés ont beaucoup évolué, et vous avez ici, par exemple, le dépôt de l'oxyde de cuivre au travers d'une couche protéinique. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez une structure hiérarchisée, et vous apercevez en rouge, directement, le dépôt du cuivre sous forme hexagonale. Ce qui fait qu'en ce cas, on a presque, si vous voulez, le replica que je vous ai mentionné auparavant. Alors l'électrochimie, je dirais, a presque conduit à une révolution dans le domaine de l'électronique. En effet, en 1990, avec le procédé de Damascène, qui a permis, finalement, de faire les circuits intégrés à partir du cuivre. Auparavant, les gens utilisaient l'aluminium et le cuivre n'était pas utilisé pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, il y avait des réactions de mobilité du cuivre ainsi que des réactions d'oxydation. Mais grâce à ce procédé de Damascène, qu'on va voir par la suite, eh bien, tous les circuits intégrés ont pu être, je dirais, connectés et toute la connectique s'est énormément simplifiée. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire finalement ces nanofilaments, ces nanofibres à partir de ce procédé électrochimique. Alors ce procédé électrochimique, c'est un peu ce que vous allez retrouver si vous regardez des bouquins de microélectronique, où on va avoir une membrane d'alumine dans laquelle on va aller déposer du cuivre et ensuite on va dissoudre ce cuivre pour aller enfin mettre le matériau qui nous intéresse. Donc tous ces procédés, finalement, vont être basés, comme le pouvoir ici, sur une membrane d'alumine. Et ça aussi, ça a été une étape clé au niveau de la recherche pour faire ces nanostructures ou ces nanofibres. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous rappeler brièvement comment on fait cette membrane de cuivre. Là aussi, il s'agit d'une cellule électrochimique dans laquelle on va faire une anodisation de l'aluminium. Comme vous pouvez voir, dans ce cas, vous allez avoir une cathode au plomb et le film anodique sera directement à l'anode. Sous l'effet d'un courant, eh bien, on va avoir des réactions qui vont se mettre en jeu. On va tout d'abord avoir une oxydation pour conduire à l'ion Al plus 3. Et ensuite, il va y avoir des réactions chimiques, comme indiqué ici, pour former Al2O3. Et le milieu électrolytique va permettre de dissoudre Al2O3 au fur et à mesure qu'il va se former. Et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir obtenir à la surface de cette feuille d'alumine ces différentes configurations avec cette répartition hexagonale des différents puits ou cavités qui vont se construire. Et grâce à cela, eh bien, on arrive finalement à former ces membranes, comme vous pouvez le voir ici, de façon très ordonnée, avec une reproductivité excellente, et ainsi de suite. Et bien sûr, la taille de ces trous, la profondeur, ainsi que la résolution, va dépendre de la qualité ou du type d'électrolyte que vous allez mettre, de la température et surtout des vitesses d'anodisation et selon que vous utilisez des méthodes pulsées ou des méthodes courant continu. Tout ça, c'est un procédé que l'on maîtrise de nos jours relativement bien. Et bien, à partir de cela, on va pouvoir maintenant construire ces fameuses structures. Et bien, maintenant, ce qu'on prend, c'est qu'on va prendre cette membrane et on va la remplir de cuivre. On va faire ça électrochimiquement une fois de plus, dans cette cellule indiquée ici, dont le bain électronétique est mentionné, avec deux, le cuivre comme cathode et anode. Et avec ici, directement la membrane, avec au-dessus un tampon buvard pour avoir l'électrolyte. On va passer, passer du courant et on va, dans ce cas, eh bien, déposer à l'intérieur des trous que vous avez auparavant du cuivre. Vous avez ici, directement, l'image de ces différents piliers une fois que vous avez sorti votre projet d'alumine. Et vous voyez ici, on voit très bien, sur cette coupe transversale, vous avez en bas, dans ce cas, eh bien, le substrat d'aluminium, avec au-dessus tous ces piliers de cuivre, comme indiqué ici. Ayant cela, eh bien, on va pouvoir maintenant aller électrochimiquement déposer le matériau actif. Et pour ce faire, eh bien, on va replacer cette membrane, maintenant qui est des piliers de cuivre, avec cet électrolyte indiqué ici, et on va, par exemple, aller déposer de l'oxyde de fer. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, vous voyez, vous percevez les piliers avec autour des formes cristallines qui correspondent directement à l'oxyde de fer qui a poussé, qui a été déposé électrochimiquement. Et voilà, finalement, cette forêt de piliers de cuivre avec, à la surface, ces oxydes de fer. Et vous voyez que là aussi, j'ai une électrode idéale, puisque le cuivre va me permettre directement de retirer les électrons et mon électrolyte va pouvoir s'insérer entre ces différentes cavités. Et en effet, si vous regardez les propriétés de ces composés, eh bien vous apercevez ici où vous avez la tenue en cyclage, mais le point le plus important que je voudrais mentionner, voilà tout simplement du Fe3O4 en poudre. Vous voyez qu'en ce cas, la capacité en puissance est relativement faible. Dès que vous passez dans ces structures, comme indiqué ici, nano-architecturées, eh bien, vous augmentez considérablement la puissance. Donc voilà, une fois de plus, l'avantage de telle technique. Alors, on peut généraliser cela. Et ici, vous avez une photo qui vous montre, finalement, tous les composés que l'on peut préparer de cette sorte. Eh bien, tout cela, bien sûr, pour des matériaux d'électrode, éthène, bismuth ou nickel, éthène, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut faire ces structures colonnaires. Alors, un autre moyen de faire ces structures colonnaires va aussi dépendre du type de matériaux que vous utilisez. Par exemple, je vous montrerai maintenant une structure colonnaire qu'on va pouvoir faire à partir de composés qui vont présenter un moment dipolaire. Dans ce cas, on peut prendre l'oxyde de zinc, eh bien, on va avoir un moment dipolaire qui va être proportionnel au volume et bien sûr qui dépend du caractère non centrosymétrique de la structure. Ensuite, eh bien, ce moment dipolaire, ou ces cristaux, va avoir une charge de surface qui va être associée au ligand ou alors à la surface de ces bâtonnets. Donc, par conséquent, maintenant, si on prépare des solutions colloïdales de ces cristaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des bâtonnets, on va pouvoir tout simplement les aligner sur un substrat, en, bien sûr, profitant de ce moment dipolaire que l'on va coupler à un champ électrique. Et si on fait cela, eh bien, voilà directement ce que j'ai au départ. Voilà mon cristal. Eh bien, si j'applique un champ électrique, je vais dans ce cas, ce champ électrique va d'abord donner l'orientation à mon cristal et la charge va finalement m'aider à tirer ce cristal vers le substrat. Tout cela, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que si maintenant je prends cette solution, j'applique directement un champ électrique, vous allez voir, eh bien, je peux maintenant créer et faire venir toutes ces particules colloïdales et les aligner sur mon substrat. Et dans ce cas, je répète, c'est le dipôle qui va directement orienter les particules et c'est finalement la charge qui va permettre de les attirer sur ce substrat. D'où ça, eh bien, ça présente des avantages énormes au niveau du coût pour le dépôt plutôt que la centrifugation et ainsi de suite. Et ça, c'est étudié, je dirais, pour former des matériaux relativement importants comme le sulfure de cadmium. Vous avez ici des vues montrant cet alignement de particules ou de bâtonnets. Et tout ça se fait de façon électrochimique. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'on peut faire sur des matériaux, je dirais, de batterie ou d'électrodes, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais en revenir à ce que l'on peut faire au niveau de la photoélectrolyse. Je vous ai parlé de L2O3, et maintenant, bien sûr, lorsqu'on va passer en photoélectrolyse, on va changer de matériau et on va prendre TiO2, qui devient la référence. Ce matériau devient la référence pour la bonne et simple raison qu'il est non toxique, peu coûteux, et a la stabilité, je dirais, chimique ou électrochimique pour ces genres de réactions. D'où, on va là aussi faire la même technique qu'auparavant. On va prendre une feuille de titane et on va tout simplement faire une anodisation. Lorsqu'on fait une anodisation, comme vous pouvez voir ici, on va créer ces tubes de TiO2, mais là, ces tubes de TiO2, dans un premier temps, on va tout simplement, par sonification, les sortir pour recréer une seconde famille, si je peux dire, en utilisant les empreintes des premiers pour mieux structurer, je dirais, cet arrangement hexagonal. Et selon le potentiel d'anodisation, on va pouvoir obtenir des structures relativement différentes. Vous apercevez ici des tubes avec à l'intérieur des nanotubes. Ici, vous avez tout simplement des tubes, et ainsi de suite. Et ça, ça va être relativement important pour les propriétés photoélectrolyse. Donc, ayant fait cela, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement utiliser ces matériaux et les doper. Ou plutôt, en termes, je dirais, du milieu, créer une hétérojonction. Pourquoi ? Parce que TiO2 a un band gap de 3,2 électronvolts. Ça veut dire qu'en ce cas, lorsque vous parlez d'absorption, vous allez absorber seulement 5% du spectre solaire. Maintenant, si on dope avec ce matériau, CO3N4, eh bien dans ce cas, on va pouvoir créer une hétérojonction et ce matériau a un gap qui est plus faible, de 2,2 électronvolts, et de plus, il va permettre un meilleur transfert de charge, d'où une recombinaison, et ainsi de suite. D'où ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'en ce cas, on reprend le même système qu'auparavant, on va mettre les TiO2 tubes dans ce genre d'électrolyte pour avoir un dépôt, ce dépôt jaunâtre, qui va être finalement un polymère, que l'on va ensuite polymériser à 550 degrés pour obtenir maintenant ces tubes de TiO2 avec à la surface eh bien, ces composés C3N4 dopé au phosphore. Ça veut dire qu'on est en train de créer une hétérojonction TiO2 PC3N4. Et lorsqu'on regarde la performance de cette hétérojonction, eh bien, vous avez ici le photocourant en fonction du potentiel. Vous voyez que directement l'amélioration lorsqu'on compare du TiO2 en noir avec ses composés indiqués ici. Et si je regarde maintenant les performances en termes d'évolution d'hydrogène, je m'aperçois qu'en ce cas, eh bien, j'ai un facteur 3 lorsque j'utilise cette astuce de créer cette hétérojonction avec C3N4 et TiO2. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire sur TiO2. Mais vous allez voir que TiO2, on peut encore jouer davantage et faire les structures que j'appellerais structures de type arbre. En effet, si maintenant je prends un substrat de verre, je fais une réaction hydrothermale avec cet alkoxyde de titane, je peux obtenir cette structure avec, vous pouvez voir, ces piliers de TiO2. Ensuite, ces piliers de TiO2, eh bien, je vais tout simplement faire un traitement sol-gel pour aller à leur surface créer des germes. Vous voyez ces germes ? Eh bien, ces germes, ensuite, je vais tout simplement faire une hydrolyse en présence de TiCl3. Et je vais obtenir ce que j'appellerais ces arbres, dans lesquels vous avez toutes ces branches de TiO2, et vous allez voir les performances de ces matériaux. D'où ça, si vous voulez, c'est les structures qui se développent aujourd'hui pour améliorer considérablement les réactions de photoélectrolyse. Bien, effectivement, si on fait cela, vous voyez ici bon, une schématique, et voilà ce qu'on obtient réellement, vous avez le cœur finalement TiO2 avec les branches TiO2. Et si je compare maintenant les performances comme indiqué ici, eh bien, vous apercevez de nouveau l'amélioration lorsqu'on utilise ces nanostructures, ces nanofilaments ou ces branches de TiO2. Et le domaine de la photoélectrolyse, aujourd'hui, bien sûr, va sur toutes ces différentes sortes de structures. Et pour vous convaincre là-dessus, eh bien, je vais utiliser un des papiers qui vient de Pyongyang, qui est l'université de Berkeley, où il essaie de dessiner des dispositifs en fonction d'arbres, en forme d'arbres, comme indiqué ici. Vous avez le silicium et les branches sortant sont du TiO2. Et dans ce cas, vous avez un dispositif, je dirais, de photosynthèse qui mimique finalement la photosynthèse que vous avez directement dans le chloroplasme, avec dans ce cas l'agencement de deux semi-conducteurs dans nos fibres, où on a TiO2 et le silicium, avec bien sûr dans ce cas des co-catalyseurs qui sont le palladium pour le silicium et l'oxyiridium pour TiO2. Et grâce à cela, vous voyez que ces deux matériaux vont absorber un spectre différent ou un domaine de longueur d'onde différent du spectre solaire, avec dans ce cas le visible pour le silicium et l'UV pour le TiO2. Par conséquent, on peut avoir des cellules qui vont directement fonctionner en tandem avec photoanode avec le TiO2 et photocathode avec le silicium pour obtenir directement ces rendements en dégagement d'hydrogène. D'où, bien sûr, là, on est en train de miner, je dirais, la synthèse naturelle, la photosynthèse naturelle, d'où les rendements sont encore, je dirais, relativement dérisoires. On a seulement 0,12%, mais cela vous donne directement une tendance où vont les chercheurs aujourd'hui dans ces réactions de photoélectrolyse. D'où voilà, si vous voulez, un peu ce qui se fait par électrochimie. Alors maintenant, bien, je vais passer, si vous voulez dire, à la deuxième partie de cet exposé, où je vais vous parler de ce que j'appellerais l'électrospinning. Alors, l'électrospinning va être l'extrusion électroassistée. Donc, grosso modo, on va avoir un polymère, et ce polymère va être soumis à un champ électrique, et on va passer, finalement, d'une solution massive à une fibre. Et on va voir comment cela va se passer. Alors, pour ce faire, eh bien, tout d'abord, là aussi, on va tout simplement s'inspirer fortement de ce qui se passe dans la nature. Et vous avez beaucoup d'insectes dans la nature qui vont produire des fibres. Et en effet, vous avez le ver à soie Bombyx mori qui produit des quantités gigantesques de fibres. Vous voyez ici, 30 millions de tonnes par an. On a également la soie d'araignée qui directement produit ces genres de fibres. Et également, dans les bactéries, il y a possibilité d'avoir ces fibres peut être généré dans le cas de biofilms de certaines bactéries. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce qu'ont fait des chercheurs, le mécanisme par lequel la soie d'araignée ou l'araignée produit, je dirais, ses fibres, ainsi de suite, bien on a un mécanisme qui, comme vous allez voir, va rappeler celui qu'on va décrire par la suite pour faire ces réactions ou ce procédé d'électrospinning. Ou dans ce cas, eh bien, il va y avoir tout simplement le liquide protéinique qui va être exclu par une faible extrusion ici pour produire ces fibres de soie comme indiqué ici. Alors ce procédé électrospinning, on va voir un peu comment il est arrivé et quelle est son histoire. Eh bien, la première histoire, si je peux dire, elle remonte de loin, dans les années 1600, par une simple expérience que si vous prenez une règle, vous avez tous fait cette expérience, vous la frottez, vous créez l'électricité à la surface et vous disposez ça au-dessus d'un liquide, comme on dit, ou comme d'une goutte. Et vous voyez qu'en ce cas, vous pouvez déformer ou déplacer le liquide. Eh bien, l'électrospinning, ça va être rien d'autre que ça. On va tout simplement prendre un liquide, une solution, sur laquelle on va mettre un champ électrique très fort, et on va tout simplement déplacer et modifier l'environnement ou la configuration de cette goutte. Alors bien sûr, c'est la première expérience à l'essai 100. Il a fallu 3 siècles pour réaliser le potentiel de cette technologie, et le premier brevet a été pris par John Francis Cooley, dans lequel il a proposé tout simplement le premier appareillage pour finalement disperser les différentes fibres et ainsi de suite. Et voilà aujourd'hui la machine actuelle qu'on va regarder en plus en détail. D'où par conséquent, si on regarde ce domaine, et le nom électrospinning maintenant devient très populaire, et là aussi, le nombre de publications, qu'on peut voir aussi, augmente considérablement, ainsi que le nombre de brevets. Alors, on va voir maintenant ce qu'est réellement ce phénomène d'électrospinning. Alors, ce phénomène d'électrospinning, eh bien, vous allez le décrire ici. Le procédé, ou la technique typique, vous avez le fluide polymérique, dans ce cas, qui est extrudé à partir de l'orifice de l'aiguille pour former une petite gouttelette qui va être soumise à un champ électrique. Vous voyez le dispositif relativement simple, conteneur, aiguille, et vous allez envoyer un champ électrique important. Que se passe-t-il ? Eh bien, lorsque la goutte arrive ici, là aussi, il faut bien se rendre compte ou se rappeler, je vous l'avais déjà mentionné, que la goutte a une tension de surface. Et le champ électrique va créer des charges plus. D'où il va y avoir finalement une compétition entre cette énergie de surface de la goutte et les charges plus créées par le champ électrique. Et lorsqu'on va augmenter le champ électrique, eh bien, bien sûr, on développe ce qu'on appelle le cône Taylor pour, dans ce cas, eh bien, créer un jet. Et ce G, eh bien, on va pouvoir le modifier en augmentant ce champ électrique. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais augmenter mon champ électrique, le solvant va s'évaporer, raison pour laquelle vous allez avoir une longueur de G. Et vous voyez ici, à un moment donné, tout d'un coup, les fibres se séparent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de solvant, et maintenant, on a une répulsion entre les différentes fibres. D'où, on peut avoir cette dispersion. Et c'est bien sûr cela qu'on va utiliser pour récupérer ou collecter ces fibres. Et ces fibres, eh bien, on va les collecter soit sur une plaque, comme indiqué ici, où on projette directement sur la plaque, ou alors autour d'un tambour qu'on va collecter et tourner au fur et à mesure. Alors en effet, cette collection, eh bien, elle peut avoir, se faire par une approche mécanique. Vous voyez qu'en ce cas, j'ai un tambour qui tourne à grande vitesse et je vais tout simplement entourer les fibres au fur et à mesure qu'elles vont se former. Ou je peux également le faire de façon différente. Ou dans ce cas, je vais créer tout simplement deux rubans de silicium qui vont être directement polarisés. Et vous voyez qu'ici, je vais créer des forces qui vont avoir tendance à tirer les fibres sur ces deux rubans. Et je peux orienter également, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est le procédé d'électrospinning. Alors, rien de bien compliqué, c'est une solution polymérique qui est soumise à un champ électrique pour finalement conduire à des matériaux filamentaires, ainsi de suite. Alors, quels sont, bien sûr, les éléments clés pour faire ces genres d'expériences ? Bien, l'élément clé, évidemment, comme vous en doutez, ça va être cette fameuse solution polymérique. Et là, j'ai mis un tableau qui est très, très compliqué, je vais le simplifier pour vous dire simplement qu'il n'y a simplement que deux types de polymères. Il y a les polymères qui vont être utilisés pour fabriquer des fibres de carbone, ça veut dire que dehors de la pyrolyse, bien, ils auront un rendement élevé en carbone, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de PAN, polyacrylonitrile, qu'on va utiliser beaucoup. Il va y avoir aussi les polymères qu'on va servir comme matrice support, matrice aspect-critielle, et dont certains peuvent se décomposer en température. Et vous verrez, cela va être très utile pour faire une fois de plus toutes les genres de configurations, c'est-à-dire avec des fibres creuses, des fibres poreuses, et ainsi de suite. Là, je vous ai mis, pour vous donner une idée, lorsque vous parlez de potentiel, on travaille généralement aux alentours de 20 kV, et dans les solvants, c'est DMF ou THF, et ainsi de suite. D'où par conséquent, le choix de cette solution polymérique sera très importante pour savoir quelle sorte de fibres on veut fabriquer, quelle sorte de porosité, et savoir les compatibilités, et ainsi de suite. Alors ensuite, bien sûr, le polymère, le choix, sa fonction est important, mais également, il y a d'autres paramètres qui sont importants, notamment la viscosité. La viscosité d'un polymère va être aussi forte importante pour tout d'abord jouer sur la qualité des fibres que vous obtenez. Vous voyez que maintenant, si j'ai des polymères ou si j'ai des solutions qui sont peu visqueuses, eh bien, je vais avoir dans ce cas des perles, ce qui n'est pas génial pour avoir des fibres homogènes. Et on peut voir également que le diamètre de ces fibres va être contrôlé par la viscosité du milieu. La tension de surface va être aussi importante. Ou là aussi, eh bien, rappelez-vous, cette tension de surface fait en sorte que toute matière amorphe s'organise en termes de sphère. Vous voyez qu'en ce cas, rappelez-vous, on a vu ça déjà, on exprime ça en millinewtons par mètre, et vous voyez, au fur et à mesure que ma tension de surface décroît, eh bien, dans ce cas, je vais avoir moins de perles et des fibres beaucoup plus homogènes. Enfin, des paramètres, je dirais, plus physiques, où, lorsqu'on fait directement ces expériences, il va y avoir la vitesse d'alimentation. Eh bien, cette vitesse d'alimentation va affecter fortement le diagramme des fibres. Vous voyez que le diagramme des fibres va augmenter au fur et à mesure que vous allez augmenter la vitesse d'alimentation. En fonction du potentiel, je vous ai parlé qu'on peut avoir directement 5 kV, 20 kV. Si j'augmente le potentiel, je peux avoir également une variation. Et enfin, la distance du cône de Taylor au substrat va également jouer un paramètre. Vous avez ici cette variation de distance. Et notez une fois de plus que plus vous allez loin, moins vous avez de chances d'avoir de perles, comme indiqué ici. C'est-à-dire que vous avez des fibres correctes, linéaires, homogènes et uniformes à partir d'une distance de quelques centimètres. Donc voilà, si vous voulez, les clés pour faire ce genre de manip. Alors bien sûr, on va pouvoir dévier. Vous allez voir maintenant tout ce que je vous ai montré par avant à partir des colloïdes, faire des particules creuses et tout ça. Eh bien, on va pouvoir jouer de la même façon et obtenir toutes sortes de fibres. Alors bien sûr, Pour faire cela, eh bien, on va tout d'abord jouer à différentes sortes de buses. Vous avez certainement tous réalisé que je peux avoir des différentes buses, et je peux avoir des buses à double entrée, ou double buse, comme indiqué ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par exemple, vous avez un exemple où on peut maintenant obtenir des fibres creuses. L'astuce est relativement simple. J'ai une double buse dans laquelle je vais rentrer de l'huile minérale avec, par exemple ici, un alkoxy au titane dans un milieu PVP. Je fais ma fibre, que je vais montrer, et ensuite je vais sortir directement l'huile avec directement de l'octane pour laisser cette sphère creuse que je vais chauffer à 500 degrés pour obtenir ces particules TiO2 à la tasse. On peut s'amuser, faire la même chose en jouant avec deux polymères, deux solutions polymériques qui ne sont pas miscibles. Dans ce cas, je prends du PAN et du PMA. Rappelez-vous, PMA est un polymère sacrificiel que je vais pouvoir ensuite chauffer aux températures et sortir pour avoir des fibres creuses. D'où on peut faire pas mal de jeux avec ça. Dans la même façon, on peut avoir le même résultat, si je peux dire, sans utiliser même le double buse, ou dans ce cas, on va utiliser tout simplement une émulsion de deux polymères, avec bien sûr des densités différentes. Et lorsqu'on va tout simplement faire cet électrophilage, eh bien vous allez voir le polymère le plus léger va directement aller contre les parois, et ensuite il va y avoir le polymère moins léger, en vert ici, qui va rentrer dans les parois. Et on a dans ce cas, de nouveau, une structure tunnel dans laquelle on peut sortir ce polymère, puisque c'est du PMA à haute température, et avoir cette structure tunnel. Dans ce cas, on a directement des structures tunnelles, mais pas continues, puisqu'on peut le voir ici. Dans ce cas, il y aura différentes sortes de bouchons, si je peux dire, dans ces genres de structures. On peut faire du décoratif. Et vous avez ici une expérience qui est un peu relativement différente, où dans ce cas, on va utiliser le récepteur, il ne va plus être une plaque, mais il va être une pointe. On va réduire la distance entre cette pointe et l'aiguille. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez, on peut finalement avoir ces colloïdes de fibres et faire ce que j'appellerais des nanopoteries. Donc voilà, si vous voulez, la possibilité que vous offre tout ce procédé. Alors ce qui est important, c'est que bon, là, je vous donne finalement la façon de faire des fibres, mais ces fibres, il va falloir ensuite les traiter pour avoir des matériaux utiles pour différentes applications, notamment en résistance, en traction. Et ce traitement, eh bien, va se faire de façon relativement délicate. Et ici, je vais prendre certainement le matériau qui est le plus utilisé, qui est PAN, le polyacrylamide triéthyle. Ou, dans ce cas, eh bien, ce qui est très important, et là j'insiste, il faut tout d'abord faire une réaction à relativement basse température, moins de 250 degrés C, pour avoir cette désorganisation et cette cyclisation. Si vous allez à 400 ou 500 degrés C, la manip ne marche plus, car vous avez directement dégradé votre polymère. D'où cette première étape, je dirais, de formatage est essentielle. Et ensuite, dès que vous faites ça, eh bien, vous pouvez carboniser ces fibres pour obtenir ces fibres de carbone, comme indiqué ici, avec certaines teneurs en azote, puisque dans votre composé de départ, n'oubliez pas, on part directement de la polyacrylonitrile. Et on obtient, comme vous pouvez le voir ici, cette variation du taux d'azote dans le composé, et à partir de 14 ou 1500 degrés, eh bien, on a tout simplement des composés carbonés purs. Alors tout ça, eh bien, on peut en faire toutes sortes de fibres, vous allez voir ici, pour différentes sortes d'applications. Les applications, eh bien, je les ai listées ici, dans l'aéronautique, pour les membranes à purification d'eau, les applications médicales, filtration, supercapaciteurs et batteries. Alors, une fois de plus, puisque ce cours est relié à l'énergie, eh bien, je vais tout simplement m'intéresser à l'énergie et vous montrer toute l'innovation que les chercheurs ont à faire des particules de toutes sortes de formes. Et on va repasser finalement tous les cours, ça se suit. Je vous ai fait la même chose sur les colloïdes et on va refaire la même chose, je m'excuse, sur les templates. Vous allez voir, notre imagination, elle est quand même relativement limitée. Eh bien, on va commencer tout d'abord par deux sortes. Il va y avoir deux façons d'opérer. Soit on a directement des suspensions, et on va tout simplement, dans ce cas, utiliser des suspensions de particules qu'on va mettre dans un polymère. Grosso modo, on va prendre des bâtonnets qu'on va mettre dans un polymère, et on va tout simplement étirer ce polymère. Ou alors, on est un peu plus chimiste, et on va maintenant jouer sur les précurseurs qu'on va mettre à l'intérieur de ces phases, de ces réacteurs, et on va avoir les constituants ou les précurseurs pour former certains matériaux. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir une membrane composée de réactifs et de polymères, et on va faire cela directement lors de la calcination, on va faire cette composite carbone plus le matériau que l'on souhaite. Alors, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement s'intéresser aux fibres de carbone. Le premier exemple que je vais vous donner est indiqué ici, où dans ce cas, eh bien, vous voyez, je vais partir d'une suspension. Je vais prendre dans ce cas du PAN dans lequel je vais rajouter du fer. Ou, lors du chauffage, eh bien, je vais avoir le rôle catalytique du fer qui fait en sorte que vous avez des particules de F3C avec autour, vous voyez ici, une couche graphitique. Ça veut dire que par cette méthode, on peut obtenir du carbone qui va avoir une conductivité nettement supérieure que le carbone classique. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas, le fer, et on verra par la suite avec le nickel, eh bien, joue le rôle catalytique et va créer cette gangue de graphite autour. On peut également jouer là-dessus et faire de l'insertion, ou pas de l'insertion, excusez-moi, immerser dans ce cas des graphènes à l'intérieur de ces matériaux et on va pouvoir obtenir de nouveau ces différents tubes avec ces carbones dans le tube et des particules de graphène ou de carbone à l'intérieur. On peut également faire la même chose avec du cobalt, ou dans ce cas, vous voyez, je vais partir de précurseur de départ dans lequel j'ai toujours mes polymères, où je vais maintenant ajouter un acétate de cobalt. Là aussi, je prépare ma fibre et ensuite, eh bien, je vais la traiter pour avoir des particules de cobalt qui vont être entourées de fibres de graphène. Là aussi, le cobalt, un élément 3D, va catalyser la formation de graphite. Et ensuite, je peux faire une oxydation et obtenir les particules de CO3O4. Voilà les particules de CO3O4. Et on peut également obtenir des particules de fer et d'autres oxydes de la même façon. On peut compliquer. Et là, vous avez un élément qu'on a déjà vu, rappelez-vous, où on voit maintenant du silicium qu'on va entourer dans du carbone. Et lorsque je fais ça, je vais prendre directement deux solutions. Une solution de PMA dans laquelle je vais mettre mes colloïdes, mes particules de silicium, avec une solution de PAN. Vous voyez, dans ce cas, j'ai une double buse où je vais pouvoir obtenir les configurations indiquées ici avec la représentation réelle. Vous avez le silicium avec autour directement la couronne de carbone. Et ça aussi, eh bien, ça vous donne des propriétés, je dirais, améliorées, notamment de tenue en cyclage, comme vous voyez ici, où on peut obtenir des tenues en cyclage de 300 cycles avec des capacités de 900 mAh par gramme. On peut faire ça, bien sûr, sur des matériaux d'électrode. Et je vais prendre maintenant le cas du matériau d'électrode le plus étudié, qui revient souvent dans ce cours, qui est lithium FePO4, où là aussi, eh bien, on part d'une solution dans laquelle on met tous les précurseurs nécessaires pour fabriquer lithium FePO4 avec le polymère PO. Dans ce cas, toujours pareil, on va directement faire l'électrophilage, obtenir les fibres, que l'on va ensuite traiter pour obtenir des particules de carbone qui vont, tout simplement, dans ce cas, entourer LiFePO4. Et on peut obtenir des capacités relativement, je dirais, proches des capacités théoriques avec une très bonne tenue en cyclage. Voilà pour les matériaux, les électrodes dans lesquels on peut faire des composites. On peut également faire maintenant des électrodes poreuses. Et là, qu'est-ce que je vous montre ? Un autre exemple dans lequel on va utiliser les mêmes mélanges qu'au départ. Pour l'acrylonitrile, dans le DMF, maintenant on va utiliser un acétate nickel. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée la fibre, on pyrolyse. Rappelez-vous, nickel, élément 3D, il va catalyser la décomposition graphitique, d'où on va augmenter directement la conduction autour de ces billes de nickel. Et ensuite, on va retirer le nickel avec une attaque HCL pour obtenir ces différentes configurations. Et là aussi, eh bien, on a des performances, je dirais, meilleures en termes de capacité de rétention et de nombre de cycles. Vous allez avoir encore des expériences encore, je dirais, plus sophistiquées, où maintenant, eh bien, on va combiner un polymère avec une émulsion. Là, on va combiner un polymère qui est du polystyrène, que j'appellerai SAN, avec, dans ce cas, eh bien, du PAN plus du SAN. Ça veut dire qu'on a deux polymères différents où l'un est soluble, où l'un va se dégrader en température. Et vous voyez ici, je fais ma fibre, et ma fibre, vous avez le cœur de la fibre qui est en bleu, qui va être directement ce polystyrène, avec, à la surface, un mélange de PAN et de ce polystyrène. Je chauffe, qu'on peut voir ici. Je vais avoir cette configuration. Et maintenant, je vais calciner à 1000 degrés C. Et lorsque je calcine à 1000 degrés C, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce polymère est dégradable. D'où, je vais avoir le cœur qui va être libre avec, dans ce cas, cette porosité. Vous avez vu, dans ce cas, je fais tout simplement une fibre poreuse avec directement un centre qui est libre. Et cela, eh bien, se représente ici. Vous avez très bien la photo de microscopie réelle. Vous apercevez la fibre avec le tunnel et toutes les porosités en surface. Alors ça, ça s'applique aux batteries lithium. On peut également avoir les mêmes choses avec d'autres éléments. Vous avez ici des éléments comme l'étain, où là aussi, c'est exactement le même jeu qu'on va faire. On va utiliser ces différentes solutions pour préparer cette fibre qui va être poreuse avec, dans ce cas, un composé organométallique de l'étain pour ensuite, en chauffage, eh bien, obtenir des particules d'étain qui vont être tout simplement insérées dans cette matrice ou cette fibre. En voilà une autre qui est aussi intéressante, où là, l'imagination parle. Ce que vous regardez ici, c'est on revient dans ce cas, on prend de l'huile minérale avec maintenant du trimutyle d'étain et une double buse. Alors vous voyez que la solution est jaune vers l'intérieur, avec le PAN à l'extérieur, et on va dans ce cas faire la fibre. Lorsqu'on fait la fibre, on obtient de façon schématique, vous voyez ici le PAN plus l'huile à l'intérieur. On va lavage avec l'octane, on va retirer directement l'huile. On va se trouver maintenant avec le composé métal organique de l'étain. On va faire une pyrolyse pour avoir cette structure dans laquelle on vient d'enrober des particules d'étain entre ou dans un tube de carbone. Et vous avez une photo de ce qui se passe ici. Okay ? Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on peut faire ça avec beaucoup de composés, ainsi de suite. Alors, pour le cas des composés au sodium, bien la même chose, on peut faire des fibres de carbone qui vont avoir des comportements électrochimiques très intéressants vis-à-vis du sodium, notamment avec des plateaux à très bas potentiel, ce qui se fait dans notre groupe. Mais également, on peut avoir, de la même façon, insérer de l'antimoine et préparer une fibre carbone-antimoine pour des propriétés électrochimiques plus intéressantes, où vous avez ici des tenues en cyclage avec des capacités. Et si vous voulez, je pourrais continuer comme ça. Je vous ai montré le lithium, je vous ai montré le sodium. Dans le cas du soufre, vous allez retrouver la même, je dirais, idée qu'auparavant. Rappelez-vous, dans le cas des colloïdes, on avait fait une sphère, on avait tout simplement une sphère creuse pour aller imprégner du soufre. Bien maintenant, on va prendre ces tubes. Là aussi, double buse, double solution. On prépare tout simplement un tube avec une pyrolyse haute température et ensuite, on va aller tout simplement imprégner du soufre à l'intérieur. Et bien sûr, là aussi, on a des améliorations légères, si je peux dire, au niveau cyclage. Enfin, si je fais les matériaux pour l'énergie, je suis obligé de terminer sur les supercapaciteurs, où là aussi, eh bien, on va refaire les mêmes choses qu'on avait fait auparavant. Vous avez dans ce cas des fibres de carbone qui vont être directement fabriquées. Et rappelez-vous, je crois, dans le deuxième cours, j'avais mentionné que si maintenant ces fibres de carbone eh bien, elles contiennent des sites actifs, je vais pouvoir me servir de ces sites actifs pour réduire le permanganèse de potassium, permanganate de potassium, et pour former directement du MnO2. Et je peux dans ce cas avoir finalement une composite avec du carbone qui a les propriétés de supercondensateur dû à la double couche, plus le pseudocap associé au MnO2. Et dans ce cas, eh bien, je cumule ces deux facteurs et je peux avoir des performances exacerbées au niveau des propriétés électrochimiques. D'où, je dirais, je vais en terminer presque là, avec donnant deux messages, c'est-à-dire qu'une fois de plus, vous avez vu ce qu'on peut faire, toute une sorte d'électrodes avec ces nanofibres, nanotubes, et ainsi de suite. Mais le problème, je dirais, le plus important et le plus limitant, c'est qu'on fait des structures qui sont, je dirais, des structures très, très larges, c'est-à-dire à des densités volumiques qui sont très faibles. D'où ça veut dire que dans tous ces matériaux, dans des supercondensateurs ou des batteries, on ne peut pas mettre assez de ces différentes fibres, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très important au niveau recherche, pour comprendre les mécanismes, mais au jour d'aujourd'hui, il y a une difficulté énorme à tirer parti de ces surfaces exacerbées. Car dans un accumulateur, on veut de la puissance, mais la surface exacerbée n'est pas des plus intéressantes au niveau capacité totale. Donc pour conclure, eh bien, ce que j'ai essayé de vous mentionner, c'est finalement que l'électrospinning, mais une fois de plus, comme la synthèse par template vous conduit à toute une sorte de nano-architecture, comme indiqué ici, les applications potentielles, elles sont nombreuses, et l'énergie n'est pas certainement là où ce procédé verra son futur. Il y a quand même la difficulté du passage de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle, car le degré d'alignement des fibres, la reproductivité, la vitesse de production, tout ça c'est limitation. Mais aujourd'hui quand même, il y a pas mal de PME qui se mettent en route, et vous avez différentes sortes de machines qui sont commercialisées pour faire ces fibres à la plus grande échelle. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur tout ce qui est les avantages, ou du moins les procédés pour préparer ces différentes particules sphériques, nanotubes, et ainsi de suite, pour les applications reliées à l'énergie, et bien sûr d'autres applications. Et merci pour votre attention.